Le journal Ramambaï.
Le gouvernement est déterminé à rétablir l'ordre sur l'ensemble du district de l'Ituri, déclaration du gouverneur de la province orientale qui donne le vrai sens de la riposte des FRDC contre les miliciens qui ont tué un des leurs lors de la patrouille de mardi dernier. Le Fonds social de la République au secours des blessés de guerre et autres ex-combattants du Sud-Kivu pour des projets de reconversion en d'autres métiers manuels. Mais certains blessés et ex-combattants pensent que cela ne représente pas grand-chose pour eux. La commission électorale indépendante a sensibilisé les partis politiques de Kamina sur les questions liées à l'organisation des échéances électorales. Une sérieuse question restée sans réponse, c'est celle liée au financement des partis politiques. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quatre miliciens FNI tués et une trentaine d'entre eux arrêtés mardi dernier par les forces armées de la RDC en Ituri. Bilan de la riposte des FRDC après la mort de l'un des leurs lors d'une embuscade tendue par les miliciens. Le gouverneur de la province orientale qui a donné l'information regrette le drame. Théo Barouti, joint par Jean-Claude Toumba-Kamanga.
Nous déplorons ce manque d'hommes. Depuis un certain temps, notre armée se déploie sur l'ensemble du territoire de l'Ituri. Ils font leur travail comme il se doit. C'est dans ce cadre qu'ils ont perdu un de leurs parce qu'ils faisaient une patrouille de routine dans la localité de Café, au niveau de Dakoula, où ils ont été surpris par une embuscade des éléments miliciens que nous pensons être des FNI, qui ont perdu quatre de leurs. Notre armée a essayé de les pourchasser. Il est tombé sur une trentaine d'entre eux qui sont entre les mains de l'armée. Nous pensons que nous allons continuer à la fois à sensibiliser ces miliciens à rejoindre le programme qu'on adhère pour leur insertion au sein de l'armée en passant par le brassage et la démobilisation.
Quel sens vous donnez à cette riposte des FARDC sur les miliciens?
Nous pensons que le gouvernement a pris ses responsabilités pour établir l'ordre sur l'ensemble des districts d'Ituri et sur l'ensemble de la province orientale.
Théo Barouti, gouverneur de la province orientale, répondait aux questions de Jean-Claude Toumba-Kamanga. Retour du ministre congolais de la Défense à Kinshasa après 72 heures dans le Nord Kivu. Pendant son séjour à Goma, Adolfo Nosumba a enregistré plusieurs préoccupations, des demandes qui attendent de lui des réponses appropriées. Le point avec Jean-Paul Basila.
Parmi ces préoccupations, la priorité était accordée aux conditions déplorables dans lesquelles sont soumis environ 6 000 militaires FARDC dans le camp du brassage des Mushaki, notamment les mauvaises conditions des logements, l'insuffisance d'eau potable, mais aussi celle de la nourriture. À cela s'ajoute celle de certains hommes d'affaires des Goma, surtout ceux du secteur de l'hôtellerie qui déplorent les non-paiements de leurs factures par les FARDC. Des questions dont il n'a pas trouvé des réponses sur place, il s'est limité aux promesses. On l'écoute.
Je vais les soumettre à qui le droit? Vous savez, il y a le Conseil supérieur de la défense qui traite de toutes ces questions. Et la plus grande préoccupation de la population et même des militaires, et je suis convaincu qu'une solution appropriée y sera réservée.
D'autres opérateurs économiques revendiquent la propriété de l'espace qu'occupent en séjour les centres de brassage des Mushaki. Tous crient à la spoliation, une préoccupation que M. Onusumba considère comme une information.
Mushaki, nous l'avons exploité depuis bientôt 6 ans aujourd'hui. Certaines personnalités, comme les opérateurs économiques ont dû le découvrir, n'étaient pas au courant que Mushaki, c'était une ferme qui appartenait à un individu. Je suis convaincu que l'État a des domaines, l'armée a des domaines dans le Nord Kivu qui peuvent être utilisés. Nous allons faire tout pour remettre chacun dans ses droits.
Notons qu'il a promis de ramener des solutions appropriées à toutes ces questions lors de son prochain séjour dans le Nord Kivu, dont aucune date n'a été précisée. De Goma, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Les blessés de guerre et autres ex-combattants militaires du Sud Kivu seront désormais pris en charge par le Fonds social. Cette prise en charge consiste à leur donner des soins et leur apprendre un métier. Ce projet a été inauguré officiellement hier mercredi à Bukavu par la 10e région militaire en présence du ministre de la Santé et des représentants provinciaux du Fonds social. Mais certains blessés et ex-combattants se montrent déjà très réservés quant à la réussite de ce projet. Explication Sophie Badera.
Dans un premier temps, plus de 500 blessés de guerre et ex-combattants vont bénéficier de ce projet du Fonds social. Ceux qui en auront besoin seront soignés. Ils apprendront ensuite un métier, soit dans la menuiserie, soit dans la boulangerie. Ils seront ensuite remis dans les mains du programme national DDR pour leur réinsertion dans la vie civile. Écoutons à ce propos le professeur Mukoma Bagwa, responsable du Fonds social à Bukavu. Il est au micro d'Adolphine Ngoï.
Nous prenons en charge les blessés de guerre. Nous les prendrons aussi longtemps qu'il y en aura. Nous commençons d'abord par les recenser, nous les soignons, puis après, nous les formons à des métiers, dont la boulangerie par exemple. Nous ne sommes pas là pour donner de l'argent. Non, non, non. Nous leur enseignons comment se débrouiller indéfiniment dans la vie.
Toutefois, ce projet n'enchante pas tous les concernés. Certains ex-combattants et blessés de guerre trouvent que la formation proposée ne correspond pas à leur niveau d'études avant qu'ils n'entrent dans l'armée. Écoutons l'un d'entre eux.
Un emploi comme la menuiserie, la boulangerie, je trouve que ce n'est pas à mon niveau. Je suis un de ces diplômés de la section pédagogique. J'ai fait longtemps professeur dans des instituts au village, vers Walungu. C'est pour laquelle je ne dirais pas qu'être menuisier ou boulanger, ça ne me convient pas. Peut-être un autre métier que celui-là.
Précisons que le Fonds social n'a pas articulé de montant pour cette opération. Ajoutons que l'hôpital militaire FAC a été retenu comme hôpital de référence militaire par le Fonds social pour distribuer des soins à ses blessés. Bukavu, Sophie Badera, Radio Okapi.
Toujours dans le chapitre armée, l'heure est au cantonnement des militaires à Kisangani et cela se fait suivant leurs unités respectives. Les autorités de la 9e région militaire veulent ainsi encadrer ces hommes de troupes et renforcer la discipline au sein de l'armée. Ceci pour permettre aux commandants de chaque unité de mieux contrôler leurs éléments et d'éviter la cohabitation entre militaires et population civile. Récit de Godlive Omondo.
Le cantonnement des militaires dans leur camp devrait résoudre tant soit peu le problème des exactions dont les civils sont souvent victimes de la part des hommes en uniforme dans les différentes communes de la ville. Bien des militaires habitent la cité alors que des civils occupent illégalement des maisons dans des camps, note le commandant de la 9e région militaire. Toujours selon les autorités militaires, ceux qui habitent la cité échappent au contrôle des commandants des unités et se livrent aux exactions. Pour le major Charles Nou, porte-parole de la 9e région, la nouvelle répartition permettra aux commandants d'unité d'avoir un œil vigilant sur leurs éléments. Les militaires sont répartis dans des camps selon leur statut. Les camps en plein centre-ville sont réservés aux veuves, aux blessés de guerre, aux militaires en retraite ainsi qu'aux démobilisés. Quant aux militaires valides encore en fonction, ils occuperont des camps éloignés de la ville. L'opération de déménagement se déroulera toute la semaine. Déjà ce mardi, la 9e région militaire a facilité les transports des militaires et leurs familles. Certains se plaignent déjà du fait que leurs enfants seront éloignés de leurs écoles. La 9e région militaire promet d'examiner toutes ces réclamations pour que personne ne soit pénalisé. Kisangani, Godlive Omondo, Radio Okapi.
Le port illégal de grade, un problème très courant à Kalemi et au Katanga. Des jeunes sont devenus par exemple lieutenants ou capitaines en quelques semaines. En plus, la plupart n'ont jamais été militaires. Cette situation inquiète la population de Kalemi. Reportage Fabien Kambindi.
Tout le monde en parle à Kalemi. On les voit passer avec leur grade, leur galon de lieutenant et de capitaine. Ils sont devenus soldats Maï-Maï. Alors qu'il n'y a que quelques semaines, ils n'étaient que civils sans formation. Ce constat est fait par la population qui ne comprend pas comment ces jeunes gens qui hier étaient daristes ou travailleurs sur un bot sont aujourd'hui devenus militaires.
Nous connaissons ces gens, nous les avons dans nos quartiers et ça nous fait beaucoup regretter. On les a toujours vus, on se demande est-ce qu'ils ont été formés, qui les aurait attribués ce genre de grade parce qu'ils n'ont été nulle part. On les connaît dans le temps qu'ils étaient des civils et n'ont pas été formés nulle part, mais on les voit porter maintenant des galons comme des officiers.
La population se pose des questions. Qui a attribué ces grades à ces jeunes gens et pourquoi? Pour le colonel Abiti Albert, commandant brigade de Kalemi, seul le commandant suprême des forces armées, donc le président de la République, a le pouvoir d'octroyer des grades ou de nommer un officier. On l'écoute, colonel Abiti Albert.
Un civil ne peut pas porter le grade de capitaine ou de lieutenant. On ne peut pas accepter. Là, c'était un faux militaire habillé avec le grade d'officier. pour faire l'histoire impossible dans la rue, et là, on ne peut pas accepter. Pour porter un grade, on doit être nommé par le président de la République, parce que c'est lui qui est habilité à nommer les officiers.
Cela fait 2 ans que l'auditorat militaire mène une campagne contre le port illégal des grades. En tout cas, à Kalemi, la population pense que le problème vient de certains leaders Maïmaï. Ils recruteraient des civils et les nommeraient officiers afin de gonfler leurs troupes et obtenir eux-mêmes un grade plus élevé. Kalemi, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
7h10 à Kinshasa, la suite du journal. Après le Sénat, l'Assemblée nationale prête à examiner l'avant-projet de constitution à Kinshasa. Le Sénat a déposé le texte hier mercredi au bureau de l'Assemblée nationale. À la chambre basse du Parlement, on estime l'examen de cet avant-projet au début du mois d'avril, période qui devrait coïncider avec l'ouverture de la session ordinaire du Parlement. La réaction de la MONUC au Sud Kivu lors de l'insurrection l'année dernière de Kunda et Mutebuti aurait terni l'image de l'ONU. C'est la conclusion d'un rapport interne des Nations Unies, rapport publié par le quotidien britannique Financial Times. Selon ce document, les forces de la mission des Nations Unies au Congo avaient, je cite, « échoué de protéger les populations congolaises ». Fin de citation. En réponse à ces accusations, la MONUC affirme avoir tiré toutes les leçons de son passé. Son directeur de l'information publique soutient que la mission onusienne au Congo se concentre plus sur son avenir pour faire mieux. Kemal Saiki, au micro de Jean-Claude Tumbakamanga.
Maintenant, les Nations Unies passent en revue tant à la fois les succès que les échecs, afin d'en tirer les leçons nécessaires. Le journaliste s'est basé sur un rapport qui n'était pas le rapport final, qui traitait de la situation dans le Kivu en juin 2004. Nous ne pouvons pas faire grand-chose à propos du passé, par contre, nous pouvons faire énormément, et c'est ce que nous faisons, à propos du présent et de l'avenir. Or, comme vous le savez, depuis juin 2004, il y a énormément de choses qui ont changé dans la mission. Nous avons augmenté le niveau de nos forces, nous avons restructuré nos lignes de commandement, de contrôle et de communication. Nous avons créé, c'est une première dans l'histoire des Nations Unies, le maintien de la paix, un état-major divisionnel, beaucoup plus proche des zones possibles d'opération. Au cours des 2 derniers mois, nous avons augmenté la cadence de nos opérations, faire preuve d'une plus grande pugnacité dans la communication des résultats que nous obtenons sur le terrain et aussi dans le maintien de l'ordre et le rétablissement de la paix et de la sécurité, particulièrement en Ituri.
Kemal Saiki, directeur de l'information publique de la MONUC. Le groupe d'ex-Maïmaï basé à Salamabil a quitté cette cité minière du Maniema. Après l'avoir occupé pendant plus de 3 semaines, ce groupe s'est retiré à Matete, toujours dans la province du Maniema. Le commandant de la 7e région militaire s'est rendu sur place pour rassurer les habitants, tout en leur rappelant que c'est de leur propre faute que ces exactions leur sont arrivées pour avoir pris l'initiative d'inviter ces Maïmaï. La population demande aux autorités de l'armée de déployer au plus vite les soldats de l'armée nationale dans la région. Comment faire impliquer le district du Haut-Lomami dans le processus électoral? C'est dans ce cadre qu'une délégation de la commission électorale indépendante a séjourné lundi et mardi dernier à Kamina, au Katanga. Pour cette première visite des membres de la CEI dans cette ville à dominance militaire, la délégation a eu à expliquer aux partis politiques, à la société civile et à la population le rôle d'un électeur et l'enrôlement. Une tâche pas facile pour la CEI qui était confrontée aux problèmes financiers des participants. Nelly Kabena.
La ville de Kamina est surtout populaire par son centre militaire. Le reste de la population civile est souvent mise aux oubliettes. C'est à cette frange de la population civile que la CEI, accompagnée par la division électorale de la MONUC Kalemi, a tenu pendant 2 jours des rencontres avec les partis politiques. C'est la salle de l'hôtel de la gare qui a servi de cadre à cette rencontre. L'essentiel de la discussion a tourné autour des questions financières. Pour le FONUS, PPRD, l'UDPS, PALU et UNAFEC, la CEI devait apporter une enveloppe budgétaire pour le fonctionnement des partis dans la localité. Le bureau local devait aussi recruter les membres des partis. Déception de tous car la délégation n'avait pas les réponses favorables à leur attente. La rencontre de mardi avec la société civile a été de son côté encourageante. Ici, les membres très nombreux se sont montrés très attentifs et engagés. La hargne de savoir est égale à la question « oui ou non, la RDC ira aux élections ». La délégation de la CEI a fait de son mieux pour répondre et expliquer la pratique de l'enrôlement et du processus de sensibilisation électorale. À tous, Monga Shark, le chargé de l'éducation de la CEI Katanga, a plaidé pour l'esprit de tolérance et un peu de patience. Quelques temps après, la CEI a réceptionné des nouveaux locaux pour les bureaux. Ceux-ci seront opérationnels aussitôt que les travaux de réfection auront pris fin. De Lubumbashi, Nelly Kadena, Radio Okapi.
Une mission de la Commission électorale indépendante depuis hier mercredi dans le Bandundu. Sa mission, recruter des membres pour ses bureaux de liaison pour la ville de Bandundu et Kikwit. Une autre mission semblable a été effectuée au Kasaï oriental. Après ces recrutements opérés dans la quasi-totalité des provinces, la prochaine étape pour la CEI sera l'implantation de son administration technique sur l'ensemble du pays. Il s'agit de l'acheminement du matériel commandé à l'intention de ses bureaux de liaison provinciaux. L'actualité en dehors de nos frontières, c'est aujourd'hui qu'aura lieu le sommet tant attendu entre le président de la République d'Algérie, Abdelaziz Bouteflika, et le roi marocain Mohamed VI. L'entretien entre les deux chefs d'État, qui aura lieu au siège de la présidence, consacrera le début de dégel des relations entre les deux pays et enclenchera une dynamique de coopération longtemps prisonnière des divergences politiques sur des dossiers sensibles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Radio Okapi.